Midi 48 minutes, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission L'épreuve des faits et je suis toujours en compagnie de Philippe Pesant-Bellemare. Philippe, cette fois, tu viens nous parler de la récupération des engins de pêche fantômes.
Oui, exactement. Donc, le comité ZIP qui a annoncé récemment là, avoir complété le projet de qui s'appelle Récupération des engins de pêche et de conchyliculture perdue ou abandonnée dans les zones à haute valeur écologique du plateau madelinien affectées par l'ouragan Fiona. Grosso modo, c'est un peu le projet annuel là, que le comité ZIP chapeaute, l'idée de ramasser les engins fantômes qui traînent un peu dans nos fonds marins. Mais cette année, particulièrement, ils ont fait un petit ménage aussi dans les lagunes, donc où est-ce qu'il y avait des équipements d'aquaculture. Sans plus tarder, je vous laisse écouter l'entrevue que j'ai faite hier avec Amy Audet-Gilbert, qui est chargée de projet pour le comité ZIP pour cette démarche-là, qui justement là, est venue nous expliquer un petit peu de quoi était question et combien quelle quantité de matériel a été récupéré dans les fonds marins.
Je peux parler pour le comité ZIP parce qu'il y a eu plusieurs projets de récupération d'engins fantômes aux îles, mais nous, on a sorti 39,7 tonnes d'engins fantômes au total. Ça fait que ça inclut 63 casiers à mort, une drague à pétanque, puis 35,6 tonnes de matériel d'aquaculture désuet qui était dans les lagunes des îles.
Puis ça, comment ça se compare aux années précédentes?
C'est vraiment beaucoup plus que les années précédentes. Les années précédentes, on s'était vraiment concentré en mer, fait qu'on récoltait les casiers en mer, puis justement des dragues à pétanque. On avait sorti aussi un filet, là, une drague à plis à l'époque. Sauf que là, de sortir, là, en fait, de nettoyer les sites d'aquaculture qui ont été abandonnés dans les lagunes, c'est énormément de tonnage. Donc, ça a été vraiment beaucoup plus que les années dernières, mais c'est parce qu'on a changé un peu, dans le fond, le focus du projet aussi.
Puis justement, si vous parlez un peu du focus du projet, comment ça a changé? Qu'est-ce qui a fait en sorte justement qu'on a changé, si on veut, l'approche ou la démarche par rapport à ça?
Ben, en fait, c'est plus qu'on l'a élargi. Donc, on a continué à faire les mêmes activités de récupération là, d'engins de pêche qui sont déclarés par les pêcheurs puis qui sont perdus à chaque année. Mais on a aussi su, au travers du travail qu'on fait puis tout ça, qu'il y avait aussi beaucoup de nettoyage à faire dans les lagunes des îles de Madeleine, qui sont aussi un refuge marin puis une pouponnière pour les homards et tout ça. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un petit check-up pour voir c'est quoi qui restait vraiment dans les lagunes, parce qu'il y a beaucoup de sites qui avaient été démantelés. Donc, en théorie, il n'était pas supposé de rester tant de choses que ça. Donc, on n'avait vraiment pas prévu de retirer des quantités aussi substantielles de matériel des lagunes. Mais c'est super parce que maintenant, on a nettoyé un total de comme 10,35 km² là, qu'on a tout passé avec un sonore à balayage latéral pour s'assurer qu'il ne reste plus rien. Tout ce qu'il y avait dans ces zones-là, dans la lagune de Vermaison, puis dans la lagune de la Grande Entrée, ça a été sorti.
Puis est-ce que justement il va y avoir une suite à ce projet-là? Bon, on sait que les engins fantômes, ça revient à chaque année, les projets de récupération, mais là, justement, il y a comme un coût qui a été donné pour nettoyer certaines zones. Est-ce qu'on sait déjà quelle forme va prendre un peu le projet pour l'année à venir?
Ben en fait, tu sais, c'est des projets qui sont financés par Pêche et Océan Canada. En ce moment, le programme, on n'a pas d'informations dessus, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il y en est pour l'année 2024-2025. C'est sûr que là, eux, ils ont effectivement mis vraiment beaucoup d'argent dans les dernières années pour la récupération. Là, c'est peut-être, tu sais, je peux faire la métaphore de si tu laisses un robinet vraiment ouvert, puis tu essaies de mopper le plancher, mais dans le fond, le robinet est encore ouvert, bien éventuellement, tu sais, ça sert à... L'effort doit être mis à comme réduire à la source. Fait que c'est sûr qu'aux îles de la Madeleine, on est vraiment chanceux parce que les casiers sont en bois. Donc, pour ce qui est là, des pertes de casiers en mort, après à peu près 2 ans, tout le bois est pourri, puis il reste seulement que le petit panneau de sortie, le grillage sur le dessus, le filet. Si éventuellement, peut-être, ça serait de développer des matériaux qui pourraient être utilisés, qui sont biodégradables. Donc là, les engins fantômes, en tout cas les cages à mort aux îles, auraient un impact vraiment, vraiment minimal à long terme, là, autant pour la pêche fantôme que pour la dégradation de plastique dans l'environnement. Là. Fait que je sais pas c'est quoi que le MPO va choisir, mais ça, c'est mon opinion personnelle.
Savez-vous, c'est des initiatives comme ça qui se travaillent en ce moment?
C'est toujours, tu sais, les plastiques biodégradables, c'est toujours difficile parce que tu veux que ce soit des matériaux qui sont quand même durables. Fait que tu veux pas que ça entraîne des coûts supplémentaires. Ça va être quand même long. C'est sûr que plus qu'il y a de l'argent qui est mis dans la recherche et le développement, le plus qu'on finit par atteindre des produits qui sont pertinents puis qui n'ont pas d'impact négatif pour la pêche, mais que d'un autre côté ont moins d'impact sur l'environnement aussi.
Puis bon, là, on le voit, là, en allant faire ce ménage-là, si on veut, là, dans les lagunes, dans les anciens sites d'aquaculture, est-ce que ça a permis au comité ZIP de raffiner ses méthodes, de découvrir de nouvelles manières de travailler pour justement faire ce type de nettoyage-là, si on veut?
Ouais, ben là, ça a super bien été dans les lagunes. On a utilisé, en fait, un fish finder, là, un détecteur de poissons là, de la marque Hummingbird, qu'on a fixé sur un bateau, puis on a fait là, vraiment des transects à la longueur. On voit super bien les structures d'aquaculture parce qu'ils sont dans la colonne d'eau, là, souvent des bouées, c'est comme des grandes lignes, comme des cordes à linge un peu à mi-colonne d'eau avec les structures qui sont accrochées dessus. Ça fait que ça a super bien été pour localiser ça. Beaucoup plus facile que des cages de homards, que là, ça, on localise avec une caméra, puis ça dépend de la position. T'sais, c'est plus facile de chercher dans des lagunes qui sont beaucoup plus petites que l'ensemble des récifs qui sont pêchés autour des îles. Donc, ouais, on a pu acquérir ce fish finder-là qui nous permet aussi de mapper les fonds, donc ça peut enregistrer la profondeur, puis tout ça. Fait qu'on va pouvoir s'en servir aussi dans d'autres projets. Puis en même temps, la caméra qu'on utilise pour chercher là, les choses vraiment en mer, mais là, on a un système de géolocalisation là-dessus qui nous permet de savoir vraiment la caméra est où si on la traîne vraiment loin dans du bateau. Donc, on a pas mal atteint, on a raffiné le protocole le plus possible pour que ça soit le plus fonctionnel. Et maintenant, après ça, on a aussi écrit un article sur la... comme nos protocoles, c'est rendu public. Là. Donc là, les gens peuvent, s'ils veulent, utiliser ça ailleurs. C'était un peu ça le but aussi, là, de rendre un protocole qui est utilisable pour d'autres puis qui coûte le moins cher possible.
Dans toutes ces démarches-là, bon, ça vous amène à vous promener beaucoup, à, bon, évidemment dans les lagunes, comme on vient d'en parler, mais aussi dans les fonds marins, les fonds de pêche, tout ça. Est-ce que vous constatez une évolution au niveau de la quantité de déchets, le type de déchets peut-être qu'on retrouve dans les fonds marins, au-delà des cages à homards, tout ça? Tu sais, j'en profite pour vous poser la question parce que nous, on n'est pas au fond de la mer pour voir ça, mais qu'est-ce que vous voyez comme évolution par rapport à ça?
Bien, aux îles, c'est vraiment super, là, parce qu'on remarque vraiment pas beaucoup de déchets. C'est pas nécessairement parce qu'il n'y en a pas dans les océans complets, mais ici, il n'y a pas tendance à ce qu'il s'en accumule. Donc, quand on plonge, c'est vraiment pas une poubelle. On trouve les cages, puis même de trouver les cages, c'est difficile parce qu'il y a tellement pas beaucoup. T'sais, la densité de déchets est vraiment pas élevée. Donc, c'est super bonne nouvelle. Ça, c'est le fun. Mais effectivement, t'sais, dans ce qu'on fait, nous, à part que des déchets qui sont reliés au domaine de la pêche, puis c'est des déchets qui sont pas... Il n'y a pas vraiment... Quand les cages se brisent ou que les cordages se cassent, c'est des choses qui arrivent, peu importe ce que tu fais, là, quand il y a une tempête, c'est pas de la faute à personne, ça arrive. C'est pas vraiment quelque chose qui peut être réduit, je pense. C'est sûr que après ça, effectivement, vu qu'aux îles, on utilise des cages qui sont en grande partie biodégradables, c'est pas trop pire. Ce qu'il faut prendre en compte, par contre, c'est que, tu sais, aux îles de la Madeleine, c'est surtout de la pêche avec des trappes. C'est quand même des engins qui vont avoir moins d'impact à long terme que, mettons, des filets maillants, ce genre de choses-là, qui sont plus utilisés ici depuis quand même un bon moment, mais qui sont encore utilisés ailleurs. Donc, le problème des engins fantômes ailleurs qu'aux îles, puis plus dans l'Atlantique, puis en mer, puis dans des zones où c'est qu'il y a encore beaucoup de pêche industrielle, c'est encore un problème qui est vraiment pas proche d'être réglé.
Émy Audet-Gilbert, chargée de projet pour le projet de récupération de dangers fantômes du comité ZIP. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir. Merci à toi.